RTL l'équipe. Carrément vélo, Emmanuel Barre.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur RTL Équipe, c'est un plaisir de vous retrouver. 11h30, 12h30, c'est carrément vélo, toute l'actu disséquée, analysée par nos spécialistes. Au programme bien sûr, le Tour d'Italie, archi dominé par Alberto Contador, écoutez bien, 4 minutes et 20 secondes d'avance sur Michele Scarponi. L'Espagnol n'a pas d'adversaire. Bonne performance, il faut le signaler également pour un Français, John Gadret, vainqueur d'étape, il pointe actuellement. Et ça, c'est une vraie perf à la 4e position du classement général. Il reste une semaine de course. Au programme également, les accusations de dopage. Hamilton charge Lance Armstrong. Il se dopait comme tout le monde. Je l'ai vu s'injecter de l'EPO. Les taux se resserrent. Quel avenir pour le septuple vainqueur du Tour de France? Nous poserons cette question à nos spécialistes. Enfin, le Tour de Californie. Victoire de Chris Horner de la formation Radio Shack. C'est carrément vélo. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30.
Carrément vélo, c'est sur RTL Équipe.
Allez, j'en profite pour accueillir cette fois-ci et pour de bon Pierre Salviac depuis La Rochelle. Bonjour Pierre.
Bonjour Manu.
Tout va bien Pierrot?
Tu te rends compte que j'étais en train de faire mon jardin et que tu me déranges
là? Oui, bah écoutez, c'est carrément vélo, c'est le rendez-vous
pardon.
De la semaine, hein,
11h30,
12h30, vous le savez bien sûr sur RTL L'équipe. Allez, on va parler vélo, on attend toujours l'arrivée dans les prochaines minutes de Patrick Chassé, quelques réactions déjà.
Ah, Chassé là?
Bien sûr, oui.
Chassé de naturel, il revient au galop, il va arriver tout vite.
Oh, c'est un peu facile ça Pierre, c'est un peu facile. Ouais. Allez, on va parler du Tour d'Italie, je l'ai dit, domination d'Alberto Contador, il n'a pas d'adversaire hein, sur ce Giro. Si on se penche un petit peu, Nicolas Pertuis, sur le classement général, 4 minutes et 20 secondes d'avance sur Michele Scarponi, impérial en montagne. On sait que la dernière semaine est difficile, un gouffre peut-être dans une semaine à l'arrivée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas d'adversaire Contador sur ce Giro.
Et puis, il est assez malin parce qu'en fait, il a quand même... Enfin, laisser gagner, c'est peut-être un peu facile de dire ça, mais il a quand même laissé une victoire d'étape à Urano, il avait laissé une victoire d'étape à Anton et à Nivet de Scatel. Donc, ce sont des équipes qui, on peut le penser, vont peut-être avoir des scrupules à l'attaquer dans un jour sans.
Oui, parce qu'on parle souvent de l'union sacrée des coureurs italiens. Pour l'instant, ils courent juste, hein, Alberto Contador.
Ils courent juste. Et puis, en plus, on sait qu'il y a un chrono la veille de l'arrivée, je crois.
Hein. Oui, oui, oui.
Et donc, le seul dans les poursuivants qui va vite au chrono est Nibali. Mais bon, quand on voit qu'il y a plus de 5 minutes d'écart, c'est nos soucis pour Contador.
Nos soucis pour Contador. Du coup... Est-ce que ça vous intéresse toujours cette course, Nicolas Pertuis?
Oui, complètement. Ouais, ouais. Complètement, mais c'est très intéressant le Giro parce que ça met en valeur des coureurs qui ne sont pas forcément bien sur le Tour de France. On peut parler de John Gadret, bon, même si c'est le premier Français l'année dernière, puisqu'il est 20e au général, c'est quand même le premier Français du Tour l'année dernière.
Oui, enfin 20e du classement général. Hein.
Voilà. Mais ce Giro est plus dans ses cordes parce que physiquement, il y a plus de col, plus raide et ça lui convient peut-être un peu mieux. Peut-être qu'il y a moins de pression. Enfin, et ça, en cela, c'est intéressant. Ce Giro est intéressant aussi quand on voit Anton confirmé. Il y a plein de choses qui font que moi, je suis vraiment à l'écoute des résultats, surtout des niveaux de performance des coureurs. Un Rodriguez, peut-être, et on ne sait pas trop ce qu'il voulait faire sur ce Giro. Il est quand même un peu. Il a fait une première semaine difficile. Pour moi, c'est la preuve que Rodriguez ne sera jamais un coureur de grand tour. Mais ça, il va falloir qu'il le comprenne. Déjà, il n'est pas tout jeune, Rodriguez, mais il va falloir qu'il se concentre vraiment sur autre chose,
je crois. Sur les classiques, oui.
Oui, il le fait déjà, mais bon. Voilà, bon, Nibali est au niveau qu'on l'attendait. On pouvait espérer un duel peut-être plus serré entre Nibali et Contador. On verra sur le chrono, ça sera intéressant, même si Contador peut assurer sur le chrono.
Il y a un monde, hein, quand même, entre Nibali et Contador.
Eh bien, ouais. Et moi, je pensais qu'il n'y avait pas autant de différence.
D'accord.
Et c'est vrai que là, ça nous éclate à la gueule.
Ça, c'est sûr. Ça,
c'est clair. Un peu le constat qu'on peut faire, malheureusement.
Alors, dites-moi, Pierre Salviac, sur ce Giro que vous suivez, je le sais, tout particulièrement, dites-nous un petit peu vos impressions avec un Français qui est quatrième au classement général. On le répète, John Gadret, vainqueur d'étape également. Et la domination, ça en devient un peu chiant d'ailleurs, d'Alberto Contador.
Alors, devant cette domination insolente de Contador, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire des étapes extrêmes comme hier, même si les Dolomites étaient majestueuses, pour en arriver là? Contador n'a pas besoin d'étapes aussi terribles que ça pour faire la différence. Dans cette hypothèse-là, ou dans ces conditions-là, je me dis, est-ce que l'organisateur a raison d'aller toujours plus loin? Ça, c'est la première question que je me pose. Et la deuxième question que je pose, c'est à propos de Gadret, le meilleur représentant français. Moi, ça m'étonne. Je veux dire, j'arrive pas à comprendre comment ce coureur, même si Nicolas nous rappelle qu'il a été 20e l'an dernier, n'est pas aussi présent dans le Tour de France, qui a quand même beaucoup d'étapes de col, s'il est capable de faire ce qu'il nous fait depuis 15 jours dans le Tour d'Italie. Ou alors, il va se plumer complètement dans la dernière semaine.
Nicolas Pertuis.
Concernant John Gadret, on peut se poser la question. Maintenant, moi, je me rappelle de John, 6e d'un Giro ou 7e. En tout cas, il était dans les 10 premiers il y a 5 ans de ça, je crois, et qui a abandonné sur chute. Donc, il vient confirmer des performances, des niveaux de performance, en tout cas, qu'il avait fait il y a de cela 5-6 ans. Maintenant, c'est vrai que quand on voit la difficulté du Giro, on peut penser qu'on n'aura pas un John Gadret top niveau sur le Tour de France. Maintenant, ça, c'est un choix. Est-ce que qui peut lui reprocher aujourd'hui de faire quatrième du Giro? Est-ce qu'il vaut mieux pas faire quatrième du Giro que 12e du Tour de France?
Ah non,
je pose la
ça.
Question. Je pose
Nico,
la question.
C'est pas ça le problème. Le problème, c'est est-ce que son directeur sportif est un bon directeur sportif qui n'est pas capable de déceler chez Gadret la possibilité de ce coureur d'être le meilleur Français dans le Tour?
Oui, mais Gadret, l'année dernière, rappelez-vous, l'avant-dernière étape du Tour de France qui est un chrono. Gadret, il joue une place au général, enfin une place au général, en tout cas une place de premier Français au général. Et Gadret fait dernier de l'étape sur le chrono. Dernier de l'étape.
Ah bah ça, c'est inadmissible. Contador, à ses débuts, il était mauvais contre la montre ou
ah
il était
non,
bon
il était très bon contre la montre d'ailleurs.
Contador a été champion d'Espagne espoir en chrono. Il a tout de suite compris que pour être un bon coureur de tour, il fallait, lui, le grimpeur, il fallait qu'il roule aussi.
Donc il faut que Gadret comprenne qu'il faut rouler aussi pour.
Oui, mais enfin, en avoir les capacités également. On va reprendre la discussion puisqu'on accueille en studio, et ça, c'est une image assez incroyable puisque Patrick Chassé vient de faire son entrée
non.
en studio. Écoutez bien.
Avec quel vélo, celui de Contador?
Eh ben, un vélo à la main, justement. Ça, c'est assez incroyable. Patrick Chassé, bonjour.
Bonjour.
Tout va bien?
Ouais, on m'a toujours dit ne jamais courir quand tu fais de la radio ou de la télé. Ne jamais courir.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
C'est un métier, hein. C'est un métier, tu sais.
Mais parce que vous êtes venu en vélo. C'est quoi cette affaire? C'est un vélo couché?
Non. Non, c'est un vélo pliant, tout simplement.
Vélo pliant.
C'est le vélo
d'accord.
parisien, celui qui permet de prendre le métro
c'est énorme,
et de le déplier
ça.
Juste derrière.
Patrick Chassé, il vient à la radio.
Si vous voulez, je vous fais une étude de marché.
Ah, pourquoi pas. Allez, vous allez prendre part évidemment au débat. Je sais que vous suivez le Tour d'Italie. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce Giro. Quand même archi dominé, hein. On se répète, mais c'est le cas par Alberto Contador. 4 minutes et 20 secondes d'avance sur Michele Scarpotti. Sauf surprise, il a gagné le Giro, hein. Alberto Contador, on est d'accord là, Patrick Chassé?
Ouais, mais Alberto Contador nous a souvent surpris, dans le mauvais sens comme dans le bon sens. Donc, je ne sais pas ce que vous avez dit avant. Et pardon si je me répète ou si je vous paraphrase. Mais Alberto Contador est quand même parmi les derniers grands champions, on va dire, de ces dernières années, de ces dernières décennies, et quand même probablement le plus imprévisible. Donc, moi, je me souviens, bon, tout le monde a en mémoire, évidemment, sa défaite dans Paris-Nice la veille de l'arrivée. On sait que c'est un coureur qui a du mal à se contrôler, qui est aussi stressé. Bon, là, c'est vrai qu'avec un écart comme ça, il peut peut-être être un peu plus serein. Mais voilà, bon, c'est tout. Faut quand même garder cette incertitude à l'esprit.
Même s'il n'a pas plié sur le dernier Tour de France, hein. C'est vrai qu'il avait eu un coup de moins bien, on s'en souvient, sur l'étape de Paris-Nice. Sur le Tour de France, sur le dernier Tour de France,
Manu. Sa performance sur le Tour de France, sur le chrono, c'était une très mauvaise performance.
C'est vrai, mais il y avait des conditions climatiques un peu. Il y avait un vent.
Non, mais il ne faut pas chercher toujours des excuses aux contre-performances. Il était quand même moins fort sur le dernier Tour de France qu'il l'était sur ses deux tours précédents.
Là,
victorieux.
On est bien d'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur Alberto Contador? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Pierre Salviac? Je ne veux pas relancer le débat, mais vous savez qu'on attend toujours la décision, évidemment, du tribunal arbitral du sport dans les prochaines semaines.
Attendez.
Oui, Pierre, allez-y.
On ne va pas commencer. J'ai bien entendu, mais on va pas commencer, on va pour l'instant juger la course telle qu'elle est, hein, d'accord? Parce qu'autrement, on n'en sort pas. Donc, la course telle qu'elle est, et à propos de la performance de Contador, encore une fois, moi, je l'ai trouvé en royal depuis le début, et hier, malgré une étape extrême, dont je suis pas sûr qu'elle serve à faire la différence, parce qu'il l'a fait quand même. La question que je me pose à propos de Contador, c'est... Il est sans doute le plus fort, mais j'ai vu quand même une superbe étape hier. C'est que ça attaquait de partout. Ça veut dire que même avec Contador, même si c'est pour la deuxième place, on est quand même capable de faire le spectacle dans le Giro. C'est ça qui m'intéresse.
Nicolas Pertuis.
Je voudrais faire une petite comparaison. Je regardais le résultat du chrono du Tour de Californie, parce qu'on est par un duel interposé entre Contador et Andy Schleck. Je vois qu'Andy Schleck, sur 25 km, je crois, il faisait le chrono hein, en Californie. Il perd plus de 2 minutes. Sur Zabriskie, Contador marque des points, Schleck ne progresse pas sur le chrono.
Ouais.
Et ça, Et ça, c'est encore des points psychologiques de perdu pour Andy Schleck.
Ouais. On a déjà abordé un petit peu la performance de John Gadret en début d'émission. Patrick Chassé, quel regard vous portez ? Bon, on connaît ses qualités. Et c'est toujours étonnant de voir un coureur qui marche bien sur une épreuve. Il est passé à côté du Tour de France 19e. Je ne sais pas si on peut parler d'une vraie performance.
Mais là, en revanche, je vais être obligé de redire ce que Jacky Durin a dû vous dire il y a quelques semaines à ce
Dites-nous.
Micro.
Ouais.
Il n'est pas fait pour le Tour de France. Il est fait davantage pour le Tour d'Italie. C'est un pur grimpeur, plus le Tour d'Italie est caricatural dans ce qui est habituellement le Giro.
Oui.
Et c'est vraiment un homme du Giro. Il a toujours été bien sur le Tour d'Italie. Je ne saurais pas vous dire de mémoire combien il a fait de Tour de France. Il en a fait deux, je crois. Gadret, je ne sais pas. Bon, un ou deux. Bref, ce n'est pas forcément son truc. Et je lisais à droite, à gauche, des observateurs qui disaient vivement qu'on soit sur le Tour de France pour voir ce que ça donne sur le Tour de France. Là, je crois qu'il ne faut vraiment pas. D'abord, il a fait le Tour d'Italie. Visiblement, il s'est préparé pour.
Il ouais.
ne faut pas l'attendre sur le Tour de France. Il y aura d'autres coureurs, y compris chez AG2R la mondiale, pour faire le Tour de France au plus haut niveau.
Et d'ailleurs, il le dit lui-même. Si je peux ne pas participer au Tour de France, bon, bah, écoutez, ce ne sera pas une catastrophe. C'est assez rare d'entendre un coureur français. Ça vous surprend cette réaction, Pierre Salviac ?
Bah, c'est pas que ça me surprend, mais on est toujours en train de dire que les coureurs français se préparent pour le Tour de France, qu'ils font leur carrière sur le Tour de France. Et j'entends Chassé qui nous dit oh, bah, c'est pas important s'il ne fait pas le Tour de France, c'est plus un coureur de Giro, etc.
Oui.
Mais on est des cons, nous, les spectateurs, ou quoi ?
Mais non, t'as pas compris un truc, Pierre. T'as pas compris que depuis le début de l'année, on en est pratiquement à une petite soixantaine de victoires. Tu me diras,
Attends.
Une soixantaine de victoires. Et sur ces 60 victoires, on a pas loin de 40 vainqueurs différents en France.
Oui.
40 coureurs français capables de gagner des courses. Alors tu peux remonter loin en arrière. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut pas dire qu'on a un grand champion, on s'en en sait rien. Ça veut dire qu'on a en tout cas plusieurs coureurs de talent. Vous vous êtes enflammé, vous avez bien fait au moment du Tour des Flandres sur Sylvain Chavanel, je parle pas pour toi Pierrot, mais quand même un peu quand même toi aussi tu étais assez enthousiaste. vous vous êtes enthousiasmé pour Thomas Vauclair, vous vous êtes enthousiasmé pour beaucoup de coureurs quand même depuis le début de la saison, Offredo aussi. Il en faut pour tout le monde. Et on ne peut pas demander à Gadret de faire le Tour d'Italie au niveau auquel il le fait, auquel il est en train d'accomplir cette performance, et puis ensuite d'être également présent sur le Tour de France. Richard Virenc a fait cette remarque plusieurs fois, je l'ai entendu le dire, et on peut lui faire confiance, en tout cas sur ce point-là. Richard Virenc disait « Aujourd'hui, dans le cyclisme d'aujourd'hui, avec tout ce que ça a de péjoratif dans sa voix, eh bien, il n'est pas possible de faire le Tour d'Italie et le Tour de France en enchaînant les deux au plus haut niveau. »
Contador l'a pas fait ? Contador va le faire ?
Non.
On attend. Donc Contador va le faire ?
Oui, si jamais il n'est pas suspendu.
Oui, non,
et s'il a
pris
je suis prêt à, mettre, je suis prêt à parier avec toi, oui. Pierre, je suis prêt à parier avec toi que Contador ne fera pas le Tour de France. Bien sûr, il y a la possibilité qu'il en soit exclu,
ouais.
mais je suis même persuadé, intimement persuadé, que s'il est autorisé à faire le Tour de France, il ne le fera pas.
Pourquoi ?
Bah parce que, une réaction d'orgueil, et puis parce que son objectif, c'est de gagner cette année le Tour d'Italie et le Tour d'Espagne.
Pour suivre Tour Roland-Garros, écoutez RTL L'Équipe.
Allez, on va reprendre la discussion évidemment avec Patrick Chassé qui est à nos côtés dans cette émission. Nicolas Pertu de Vélo Magazine, Pierre Salviac également. Avant de reprendre les débats, on a patienté quelques minutes avant de vous donner cette information, quelques vérifications. Et effectivement, on va sourcer, on va citer d'ailleurs le site de Marca qui annonce, et c'est une terrible nouvelle une nouvelle fois pour le monde du vélo, le décès de Javier Tondo, le coureur de la formation Movistar, âgé de 32 ans. On a très très peu d'informations pour l'instant concernant les conditions de ce décès. Davantage d'informations à venir. C'est évidemment une très mauvaise nouvelle, Patrick Chassé.
Javier Tondo. Une image, Xavier, s'il te plaît. Xavier Tondo, une image. La victoire qu'il avait obtenue sur Paris-Nice, dans le col de Vence, c'était une étape magnifique. Il avait gagné cette étape de façon foudroyante. C'est probablement, honnêtement, en tout cas moi, c'est la seule image magistrale que me renvoie ce coureur qui était probablement déjà bien connu des spécialistes mais assez méconnu quand même du grand public. C'est un coureur qui avait porté les couleurs de l'équipe Cervélo et qui depuis le début de la saison avait rejoint la formation Movistar.
Complètement deuxième du Tour de Catalogne la saison passée, vainqueur du Tour de Castille-León en début de saison. Il avait fait, c'est vrai, un début de saison plutôt remarqué, et puis sixième également du Tour d'Espagne.
Et il y avait eu cette histoire, rappelez-vous, sur Javier Tondo. Il avait dénoncé un trafic
de produits dopants chez des jeunes coureurs, amateurs, et je crois que c'était des juniors dans son pays, en Espagne, au moment où justement l'Espagne cristallisait toutes les critiques liées à sa façon de lutter contre le dopage. Tondo avait dit c'est un scandale, regardez, et il avait carrément dénoncé, il avait dit tant pis, je suis une balance, mais je tiens à dire que ça c'est inadmissible. Et derrière, eh bien, une enquête judiciaire avait été ouverte sur les faits qu'il avait dénoncés.
Bon bah écoutez, si cette information se confirme, et elle le sera très certainement dans les prochaines heures ou dans les prochaines minutes, on a évidemment une pensée pour son entourage, pour sa famille et puis pour son équipe également. On rappelle qu'il avait signé au sein de la formation Movistar depuis le début de l'année. On reprend la discussion, c'est un peu compliqué, mais on va quand même essayer d'enchaîner concernant le Tour d'Italie. Donc domination d'Alberto Contador, on est d'accord, mais attention, il faut rester prudent. La performance de John Gadret, vainqueur d'étape également, hein, c'est pas que quatrième du classement général. La performance également, d'une manière générale, des coureurs peut-être de la formation AG2R, la mondiale également, avec Dupont qui est également souvent dans le coup, et tout particulièrement en montagne, Nicolas Pertu.
C'est pareil, Dupont, c'est un peu le même...
C'est la joie.
Non, merci, mais c'est Pierre. Pareil, c'est
vous
le
nous tour... sortez d'un guépier.
Hubert Dupont n'a peut-être pas le entre guillemets le moteur de Gadret, mais en tout cas c'est le pur grimpeur. Quand on connaît Hubert Dupont, c'est un coureur
si tu regardes le Giro, tu le connais.
Pas maintenant, oui.
Non, mais même l'année dernière, l'année d'avant.
C'est un coureur qui avait aussi brillé sur la Vuelta, je me rappelle, il y a trois ans, où il avait été rentré dans les 15 premiers de mémoire.
Vous êtes extraordinaire, les mecs. Attendez, vous êtes en train de nous sortir des coureurs qui brillent, des Français, hein, qui brillent dans le Giro, qui brillent dans la Vuelta, que je ne vois pas dans le Tour de France.
Mais il n'y a pas que le Tour de France.
J'avais cru comprendre que c'était ça l'essentiel, et c'était à cause du Tour de France que les coureurs français ne réussissaient pas leur carrière.
Mais c'est justement ça le problème, Pierre. Il faut arrêter de parler que du Tour de France. Et heureusement qu'il y a un beau Tour d'Italie, parce que franchement, le Tour d'Italie qu'on vit, celui qu'on a vécu l'année dernière, réconcilie beaucoup de gens avec le vélo. Bon, ils se fâchent peut-être le lendemain dès qu'ils apprennent une mauvaise nouvelle, mais en tout cas, je pense que ce cyclisme-là réconcilie. Quand on voit Contador attaquer relativement loin de l'arrivée, là je parle plutôt de la première étape de montagne, quand on voit hier le coup de poker tenté par Vincenzo Nibali, alors que regardez les Tours de France qu'on a vécu, les derniers Tours de France, ces fameuses courses compactes, pour citer le terme de Jonathan Voters, où tout se joue non pas dans la dernière étape de montagne, oui dans la dernière étape de montagne évidemment, mais en plus dans le dernier col, et en plus dans le dernier quart d'heure du dernier col qu'on ferait le Tourmalet l'année dernière, ou je sais pas, ou la Vuelta même l'année dernière, ou Carlos Sastre dans l'Alpe d'Huez quand il gagne, etc. On attend, et finalement on a droit à un quart d'heure de course. Et bien sur le Tour d'Italie, c'est complètement différent, et ça c'est génial.
Mais pourquoi?
Parce que l'enjeu est beaucoup moins important. On peut se permettre de prendre des risques sur un Tour d'Italie. Là, je parle plutôt d'un Alberto Contador. Parce que le Tour de France, je suis désolé, c'est livré au pragmatisme des managers qui veulent absolument ne prendre aucun risque. Et puis, il y a une façon de courir, puisqu'on dit souvent du mal des Espagnols, des Italiens, en ce qui concerne leur comportement éthique. Eh bien, il faut reconnaître, enfin, c'est un point de vue personnel, que les Italiens ont une façon de courir dans les courses par étapes où ils prennent quand même beaucoup plus de risques que d'autres champions sur le Tour de France ou sur des grandes courses par étapes.
Nicolas Pertu.
Ouais, c'est rigolo ce que dit Patrick, parce que je me fais toujours la réflexion aujourd'hui. Andy Schleck, finalement, on voit le palmarès de Contador. Il n'a toujours pas gagné un grand tour, Andy Schleck.
Ah oui, mais attendez.
Non, mais attendez. Nibali, il a gagné un grand tour. Andy Schleck, il n'a pas gagné.
Moi, je suis désolé. Pour moi, Andy Schleck, il a gagné un Tour de France déjà. Pour moi, Andy Schleck, il a déjà gagné un Tour de France.
Peu importe qu'il ait gagné ou pas, pardon, mais la manière est la plus importante. On a annoncé Andy Schleck, on a annoncé les frères Schleck de façon un cyclisme à l'ancienne. On attendait de ces coureurs. Pourquoi? Je me demande encore pourquoi. Alors que ce sont des attentistes. Je suis désolé. Peut-être que sur une classique, ils sont capables effectivement de se montrer offensifs. Sur le Tour de France jusqu'à présent, on a eu des mots, on a eu des paroles, on n'a pas eu beaucoup d'actes. Je parle de la manière, je ne parle pas du résultat. Dans la manière, je suis désolé, ils courent à la façon qu'on leur dicte, c'est-à-dire l'année dernière, la façon dont qui leur était dictée par Pierre Meurice. Cette année, on verra ce qu'il en est, mais j'ai bien peur que ça ne change pas.
Mais attendez de voir également un Andy Schleck en montagne avec un Frank Schleck à ses côtés, et là, ça change la donne. Je pense qu'Andy Schleck, il a été largement perturbé sur le dernier Tour de France, et que c'est vrai que sur le dernier Tour de France, on a assisté à ces scénarios, on attend vraiment les derniers kilomètres pour se bagarrer, mais c'est parce que Contador n'était pas au sommet de sa forme, et ça il le sentait très bien, donc il savait très bien qu'il pouvait,
plus, alors,
qu'il pouvait
si pas,
se pas permettre.
Au sommet de sa forme, fallait y aller avant. Hein.
Je sais pas, ou peut-être patienter, peut-être
non,
prendre
non,
des
non,
risques.
On voyait bien que Contador s'améliorait au fil des jours l'année dernière sur le Tour de France.
Pierre Salviac.
Non mais Andy Schleck, c'est celui qui a fait deuxième du Tour de France l'année dernière, non?
Oui.
C'est celui qui était coaché par qui?
par Bjarne-Riis.
C'est bizarre, dernière. À chaque fois que Bjarne-Riis est coach des coureurs, ils sont
mais non,
bons. Ils...
Mais non, regarde, c'est pas seulement Bjarne-Riis. C'est le cyclisme moderne. Quand tu regardes la façon de courir.
Pour rien
la façon de courir. Mais bien sûr que si, tu as raison. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un cas isolé. Simplement, si tu regardes la façon dont Johan Bruyneel fait courir, pas à l'époque d'Armstrong, où effectivement, dès la première étape de montagne, tour 2000, hop, c'est Strière, paf, il plombe le truc. Ok, c'était Armstrong. Maintenant, on va peut-être savoir de quelle façon il procédait. On va en parler, ça, j'espère, quand même.
Chasse, arrête, ne parle pas de Bruyneel avec l'équipe US Postal, parce que quand
tu veux qu'on parle de Manolo Saïs, tu veux qu'on parle de tous ces directeurs sportifs qui nous ont appris à un cyclisme où justement l'attentisme est la règle.
Mais en même temps, ça, c'est un débat. Je veux dire, voilà, c'est comme ça, c'est le cyclisme d'aujourd'hui, c'est le cyclisme moderne, on peut le regretter, mais ça sert à rien d'avoir des discussions sur cette
Pourquoi
manière de courir.
Puisque parce c'est non, du, parce c'est que sur le Tour d'Italie, c'est différent.
Ah, c'est magnifique hier. Hier, c'était magnifique, hier, le scénario.
Ce que je voulais dire à la base, c'est.
Mais c'est parce qu'il n'a pas d'adversaire qui peut se permettre.
Écoutez Nico, c'est Nibali qui met le feu aux poudres.
Mais écoutez le technicien Nico.
Nicolas Pertus.
Non, mais simplement ce que je voulais dire sur Andy Schleck à la base, c'est que finalement ce garçon, mis à part Liège qu'il a gagné, il est en train de se faire des couilles en or en faisant deuxième du tour chaque année, simplement.
Exactement.
Et ça, c'est préjudiciable.
C'est pas bon pour le vélo.
Est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce qu'il n'est pas en train de changer justement? Lui
J'espère.
Qui était un coureur au fond. Non, mais malheureusement, j'allais dire dans le mauvais sens. Lui qui, à la base, est effectivement un coureur offensif, loin de l'attentisme de certains grands leaders. Est-ce que lui, justement, malheureusement, confronté à la foudre de Contador, n'est pas en train de changer sa façon de courir?
Ben, je ne sais pas, mais le problème de Andy Schleck par rapport à Contador, c'est à chaque fois qu'on voit Contador sur une course, quelle que soit la course, il attaque et souvent il gagne. Andy Schleck, il est là que, il le dit, il est là que pour les objectifs qu'il veut vraiment faire. Donc on voit Andy Schleck attaquer sur un Liège, on voit un Andy Schleck attaquer sur l'Amstel.
Super dur avec Andy Schleck. Il est déjà, faut dire qu'il est beaucoup, il est plus jeune que Alberto Contador. Hein, donc on n'a pas encore,
ça.
On connaît pas encore le meilleur d'Andy Schleck.
Mais peut-être,
il
Manu.
Progresse d'année en année.
Mais je suis pas là en train de critiquer
Liège,
Andy Schleck.
Quand il décide d'attaquer, il y a personne dans la roue. Sur le Tour de France, c'est lui le plus costaud. Et je rappelle que si Contador ne profite pas d'un ennui mécanique, c'est Andy Schleck qui remporte le Tour de France. Et ça, je trouve qu'on l'oublie quand même assez souvent. Andy Schleck perd le Tour de France à cause d'un saut de chaîne. La vérité, elle est là.
Non.
Mais bien sûr que oui,
mais
Patrick.
Non, pas du tout. Il perd le Tour de France parce qu'il se montre beaucoup trop attentiste. C'est tout. Faut arrêter. Encore une fois, il y a des gens qui sont victimes d'une réputation surfaite dans un sens et d'autres dans l'autre. Pourquoi Andy Schleck aurait-il ce panache qu'on lui prête? J'attends de voir le panache d'Andy Schleck. Un saut de chaîne. Non, mais faut arrêter, quoi. Enfin, il a.
Patrick.
Mais regardez les étapes des Pyrénées l'année dernière.
Il y a 38 secondes. S'il perd pas ses 38 secondes, il gagne le Tour de France.
Mais on ne refait pas l'histoire. Quand on perd une bataille, on tente une deuxième derrière.
Oui, mais il a tenté dans le Tourmalet quand il dès le début du Tourmalet.
T'as raison. Pas le début. Le Tourmalet, c'est 20 km. Hein, c'est pas au début du Tourmalet.
Allez, dans les 10 derniers.
Il attaque
kilomètres.
Après la cascade de la Ristor. Et s'il te plaît,
breaking news.
Je peux te dire, oui.
Breaking news.
Sur
Twitter, à propos de Tondo,
oui.
Il aurait perdu la vie dans un accident domestique, selon Marca.
Oui, mais ça, c'est Marca.
Ouais,
non, mais domestique.
T'as pas écouté ce que
non, mais c'est
Manu
par rapport. Non, mais c'est par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, qui aurait pu laisser supposer que, même s'il était la représentation inverse, qu'il y a une histoire de dopage dans cette affaire. Donc c'est
ah
pour
bon
ça que je préfère
pour le. L'accident domestique,
non,
il était
parce
tombé
que la première chose, que j'ai compris, moi, quand on a parlé de la mort de Tondo. Ensuite, quand tu as expliqué son histoire.
Bon, voilà, vous m'avez mal écouté alors. Vous m'avez très mal écouté.
Donc, je suis pas le seul.
Non.
Je préfère le dire.
Vous m'avez très mal écouté puisque, bon, on va pas.
C'est un accident, c'est ça que je veux dire.
Je voulais pas donner cette information parce que pour l'instant, on n'a pas encore toutes les
si,
infos.
C'est un accident.
Et qu'il faut rester très prudent concernant le décès. J'ai parlé d'un accident domestique. Et si vous voulez, on peut aller encore plus loin. Mais moi, ça me paraît tellement gros que je préfère attendre. Et vous savez, dans ces cas-là, il faut rester patient. Apparemment, il a heurté la porte de son garage. Voilà.
Bon, bah,
donc
mais
là, c'est
on important
est très
de le
loin.
Dire, non.
On est très loin d'un problème de dommage, de dopage personnel.
C'est important de le dire.
Mais encore une fois, cette information que je vous donne là, je vous la donne parce que vous me poussez à la donner, mais on la met entre parenthèses parce qu'elle n'est pas confirmée.
Mais parce que ça laissait supposer, je suis désolé, ça pouvait laisser supposer que c'était un décès lié à un problème de dopage.
Mais
voilà,
c'est dramatique dans le vélo, dans ce milieu
raison,
où dès qu'un type meurt, il faut qu'on dise attention,
ben oui, Patrick,
non, mais il
n'est
pas forcément mort du dopage.
Ben oui, ben c'est pour
donc
ça qu'il faut
on
le dire.
Utilise le terme de dans un accident domestique, Persevec, vous qui avez une longue carrière évidemment, voilà, les mots ont leur importance et Ça avait l'air plutôt clair. Enfin bon, voilà, c'était pour la petite précision. Et bien sûr, d'ici la fin de l'émission, si on a davantage d'informations, on ne va pas hésiter à vous les communiquer.
RTL L'Équipe, Carrément Vélo, Emmanuel Barthes.
Allez, la deuxième partie hein, de Carrément Vélo. Bien sûr, après le Tour d'Italie, on va peut-être poursuivre la discussion quelques minutes avant de passer à l'autre sujet du jour. Et évidemment, l'autre sujet du jour sont les accusations de dopage, celles de Tyler Hamilton. Surprenant, hein, Tyler Hamilton, puis Incapi dans la foulée également. Accusation évidemment envers Lance Armstrong. Il se dopait comme tout le monde, je l'ai vu s'injecter de l'EPO, ce n'est pas une grosse surprise. Les taux se resserrent, quel avenir pour le septuple vainqueur du Tour de France? Nous poserons cette question à nos spécialistes. Et enfin, le Tour de Californie, pourquoi pas, même si ce Tour de Californie passe complètement inaperçu. Je ne sais pas, je vais poser la question. Oui, c'est vrai, très tard, très tard. Faut rester éveillé assez tard pour pouvoir suivre les étapes. Quoi qu'il arrive, le vainqueur, est américain, c'est Chris Horner, le coureur de la formation Radio Shack. Voilà. Vous pouvez réagir, évidemment, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Vous avez désormais, vous connaissez la manipulation direction Facebook, Carrément Vélo, sur RT L'Équipe. N'hésitez pas à poser une question à nos spécialistes. Et puis, vous pouvez également écouter ou réécouter l'émission en podcast. Vous allez sur RTL.fr, vous cliquez sur podcast.
Roland Garros, comme si vous y étiez. Open your window. C'est tous les jours sur RTL L'Équipe.
Allez, on laisse de côté le tennis, retour à Roland. D'ici quelques minutes, on reprend la discussion concernant le vélo avec Patrick Chassé, Pierre Salvec, avec Nicolas Pertu de Vélo Magazine. Messieurs, plus rien à dire sur le Giro. On patiente encore une semaine. Encore quelque chose à dire? Oui.
Ah bah, je viens de me faire pourrir par un de tes auditeurs. Salviac ne connaît pas Dupont, en fait il connaît rien. Mais il peut me donner le palmarès de Dupont, lui?
Oh, ne ramenez pas tout à vous, Pierre Salviac.
Mais non,
c'est
fatigant.
Ne ramenez pas tout à vous.
Je parle de Dupont.
Oui, Dupont.
T'as des spécialistes là, ils vont nous donner le palmarès
Dupont,
de Dupont.
C'est vous sûr que, vélo.
Je suis sûr que Pierre Salviac se rappelle de Marc Durand.
Ah oui.
Alors.
Ah oui, la différence entre Durand et Dupont.
Bah ouais, mais
pas grand chose finalement.
Ben voilà, donc le palmarès de Durand, c'est que des conneries. C'est le mec quand même qui a sorti une chose qui était exceptionnelle, qui disait à l'arrivée des étapes de montagne, quand Merckx passe au sommet des cols, les blés sont encore verts, et moi quand j'arrive, les blés sont coupés. Bon. Et ben avec une réflexion comme ça, je suis obligé de me rappeler.
Je ne sais pas pourquoi vous énervez, puisque vous êtes le premier à vous présenter comme un cycliste, comme un spécialiste du vélo, Pierre.
Et ben c'est pour ça que je dis encore une fois, expliquez-moi qui est Dupont.
Alors pourquoi vous nous faites perdre du temps pour rien? Dupont, c'est un coureur qui a été formé à Marseille, qui est passé professionnel chez AG2R La Mondiale. C'est sa sixième saison chez les pros. C'est un grimpeur, il a de bonnes qualités de grimpeur.
Palmarès.
Il s'est déjà distingué. Palmarès, bon, il n'a pas le plus grand palmarès.
Il n'a pas de palmarès parce que c'est avant tout un équipier. Voilà. C'est avant tout un équipier. Goubert était capable aussi de rentrer dans les 15 premiers.
Donc c'est normal qu'un cycliste ne connaisse pas Dupont.
Bon, allez, on ferme la parenthèse. Voilà. J'ai envie de vous entendre tout de même sur le Tour d'Italie, juste avant de passer aux accusations de dopage, celles concernant Lance Armstrong. On a finalement annulé cette fameuse descente du Crosstease, décision du l'UCI. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick Chassé?
C'est une discussion difficile. C'est difficile aussi de tenir une position tranchée parce qu'on est tous, on a tous c'était évidemment choqué par ce qui s'est passé juste avant, la mort de Wouter Weiland. Alors, c'est effectivement derrière difficile de dire mais le vélo, c'est ça, c'est une prise de risque, c'est l'exploit, c'est etc. C'est peut-être pas le moment, effectivement, de dire ça. Moi, je retiendrai, mais je crois que je vous l'avais écrit sur Facebook la semaine dernière, je retiendrai simplement que, malheureusement, les drames dans le vélo, il y en a. Malheureusement, c'est vrai assez souvent, moins souvent, n'en déplaise à Jackie Durand, par exemple, depuis que le casque est devenu obligatoire, il y a peut-être plus de chutes, mais elles ne sont pas aussi graves, aussi souvent dramatiques. En revanche, ce qu'on observe, c'est que souvent, très souvent, le plus souvent, les chutes interviennent à des moments où le peloton ou des coureurs dans le peloton ne sont pas forcément très concentrés. Là, on était plutôt dans la fin de l'étape, mais on n'était pas au sein du peloton dans une phase extrêmement tendue. La descente du col n'était pas spécialement dangereuse. Elle n'était pas dangereuse. Donc, c'est ça souvent le vélo. Et on le voit aussi en plaine, on le voit pour des accidents heureusement beaucoup moins graves. Il y a des chutes qui interviennent à des moments où le peloton musarde, etc. En revanche, quand le col est dangereux dans sa portion descendante, les coureurs le savent, ils sont extrêmement concentrés. Et en étant concentrés, ils font moins de bêtises. Cela dit, derrière, on a eu une telle polémique autour de ce Crosstease que finalement, et on sait à quel point les coureurs sont sensibles à ce genre de polémique aussi, on leur avait mis une telle pression sur ce col que je pense en tout cas, que eux devaient être un petit, n'auraient pas abordé sereinement la descente de ce col. Je sais pas ce que Nicolas en pense, parce que lui, il est à mon avis beaucoup plus proche des coureurs, justement, dans leur psychologie. Mais j'ai l'impression que c'était pas la meilleure façon d'aborder un col aussi périlleux, aussi difficile, on va dire, aussi compliqué, avec toute cette polémique qu'il y avait eu avant.
Nicolas.
Moi, je garde toujours en mémoire Pereiro, il y a 2 ans sur le Tour, hein, qui a failli perdre la vie.
Oui.
En dévalant, je ne sais plus quel col c'était.
Col Daniel, ouais. C'est ça, hein, je crois.
Oui, je crois bien.
Je garde cette image toujours parce qu'on est passé près aussi du
gouffre, catastrophe. Hein, ouais,
la catastrophe. Hein. Après, les coureurs, je pense que quand on est coureur cycliste, ça fait partie. La concentration, c'est compliqué. Enfin, ça se travaille. On parle tout à l'heure de Roland Garros. Moi, j'ai cette admiration pour les tennisman à rester concentré au moins 3 heures à 4 heures par jour, parce que pour faire un match de tennis, au-delà de l'effort physique, c'est surtout la concentration mentale. Et ça, ils le répètent tous les jours au moins 3 ou 4 heures. J'ai une grande admiration pour les tennisman pour ça. Et je pense que les cyclistes n'arrivent pas à être aussi concentrés longtemps dans une course. Après, le fait d'aborder ou pas ce col et la descente, je ne suis pas sur le Giro, je ne sais pas ce que les coureurs on pensait vraiment, j'ai du mal à avoir un avis là-dessus, mais en tout cas, c'est vrai que la concentration mentale, on n'en parle pas assez dans le vélo, c'est important. Et là, cette descente, ça fait partie de ça pour moi, mais bon, voilà, après les coureurs, je ne sais pas quelle est l'ambiance sur le Giro, je ne sais pas comment ça a été vécu aussi, le fait que certains spectateurs arrêtent la course. Je ne sais pas, quand on est coureur, comment on peut vivre ça. Est-ce qu'il y a une frustration? Est-ce qu'on a peur?
Pour Nibali, c'était certainement une très grosse frustration. D'un autre côté, si ce débat peut permettre de sécuriser les descentes de col, de mettre des filets, et d'abord il faudra en mettre beaucoup plus des filets, hein, pas seulement un seul, hein, parce que lancer à 80 km/h, Jackie Durand me disait l'autre jour, c'est pas ça qui va arrêter un coureur, hein, il peut passer au-dessus. Mais si on peut sécuriser. Moi, ça me dérange. Enfin, ça me dérange pas. Je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien de sécuriser. Mais de même que c'était complètement stupide de vouloir réduire les difficultés dans les épreuves, dans les grands tours, sous la pression du dopage, en disant bah oui, les étapes seront plus courtes, il y aura moins de dopage, qui est une aberration totale. Et ben c'est la même chose. Si on veut commencer à supprimer les dangers sur la route, c'est un débat sans fin, sans issue, sans solution.
Ouais.
Donc essayons de sécuriser davantage la route, mais n'allons pas emprunter des autoroutes.
Oui, parce que Pierre Salviac,
je suis dans l'interrogation. Est-ce bien nécessaire d'aller dans l'extrême de l'extrême, surtout quand on constate que ça ne change pas grand-chose à la hiérarchie et au classement général au bout du compte? C'est la première question que je me pose. Et la deuxième, c'est à partir du moment où on me dit que...
Mais vous rigolez ou quoi, Pierre Salviac?
Je peux poser la deuxième question?
Oui, allez-y, puis bon, je vais reprendre derrière.
D'accord, bon. Et à partir du moment où on me dit...
tous les deux.
À partir du moment où on me dit que on a évité cet extrême, uniquement ou parce que les secours n'auraient pas pu arriver à temps ou les ambulances n'auraient pas pu être assez près des coureurs. Moi, j'accepte cet argument.
Il y en a des endroits où on ne va plus passer en vélo.
Mais oui,
alors.
Bien évidemment. Mais ça y est, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi avec cette décision de l'UCI. Vous le savez très bien. Prenons l'exemple du ski, par exemple, avec Kitzbühel. On sait très bien que Kitzbühel, c'est une descente qui est dangereuse. Et on sait très bien que chaque skieur qui se lance sur la Streif risque de perdre la vie. Et tous les skieurs le savent. Et pourtant, ils y vont. Et pourquoi? Parce qu'ils sont
pas
fous.
Que je pose,
parce que ça permet de construire une légende également. Et le vélo, c'est construit sur également, malheureusement, c'est vrai, c'est terrible. Mais ce n'est pas un sport
ce n'est pas
un sport de salle.
La légende du vélo ne s'est pas construite sur ses morts. La légende du vélo s'est construite sur la faculté de créer des exploits sur des terrains hostiles.
Bien
oui,
sûr.
C'est ça,
c'est la
vraie valeur.
Mais souvenez-vous des premières images, et vous devez le savoir, Patrick, à la télévision, quand on a vu en noir et blanc les coureurs passer les Alpes, les Pyrénées, plonger dans une descente, c'était formidable, c'était une découverte incroyable. Et aujourd'hui, ces images, quand on voit un peloton qui passe à plus de 2000 mètres d'altitude dans le brouillard, et que les coureurs plongent dans la descente, et que les motos n'arrivent pas à suivre les coureurs,
d'accord,
et qui a, je veux dire, c'est un spectacle quand même. Si on met tous les coureurs sur une autoroute sans danger, sans virage, sans descente, parce que c'est aussi ça le vélo, c'est aussi un sport dangereux. Et je pense que on va finir par s'ennuyer, mais vraiment et franchement et pour de bon.
Manu, c'est pas un col comme les autres. Écoute, j'en ai vu des cols, j'en ai fait des descentes de cols en moto quand même. Je me suis même fait assez peur. Celui-là, franchement, c'est quand même un col extraordinaire et une descente extraordinaire. Ça mérite quand même réflexion.
Nicolas Pertuis.
Moi, je voudrais juste dire deux choses. La première, c'est qu'il y a un an, on louait le Giro et l'organisateur pour le tracé qu'il avait fait. J'ai pas l'impression que le tracé cette année soit énormément différent de celui de l'année dernière. Oui. Donc alors attention à ce qu'on dit parce que nous on est aussi des personnes qui changeons d'avis assez rapidement. Deuxième chose, quand j'étais jeune et que je faisais du vélo et que j'étais coureur deuxième KT ou troisième KT, je me souviens que du mois de mars au mois de début mai, on avait des villes à ville tous les dimanches. Aujourd'hui, c'est quoi les courses ? C'est des courses dans des zones industrielles avec des circuits de 1 km 200 et des vire-vire, on appelle ça. Moi, si, parce que pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les gens, c'est un problème de société. Hein. On veut faire des choses sans risque. C'est la société actuelle, c'est un peu ça. Et moi, quand j'ai commencé le vélo à l'âge de 14 ans, s'il y avait eu que des vire-vire, je ne sais pas si j'aurais fait du vélo. Et s'il y avait eu que des vire-vire, je ne sais pas si aujourd'hui je serais journaliste dans le vélo. Et ça, je crois qu'il faut s'en rappeler. Il y a un moment, le vélo, c'est pas ça.
Ce que vient de dire Nicolas, c'est fondamental. C'est l'essence même de notre sport. Si demain, et c'est malheureusement demain, c'est aujourd'hui, si aujourd'hui on est capable de proposer uniquement ça chez les amateurs, on sait pourquoi. À la limite, chez les amateurs, chez les enfants, chez les... On pourrait le comprendre, mais c'est pas la vitrine de ce sport. Ça reste avant tout... Moi, je me souviens, un spectateur m'avait dit une fois, il m'avait dit, en pleine affaire de dopage, il m'avait dit, il n'y a pas de dopage pour aborder une descente de col. Et il avait, souvent, je me suis approprié cette phrase. Oui. Je le dis parce que ce qui fait l'admiration, ce qui fait admirer aussi ces coureurs.
On est bien d'accord, finalement.
C'est l'exploit. Mais bien sûr qu'on est plutôt d'accord. Parce que, et je pense que la solution, c'est pas tout blanc ou tout noir. Encore une fois, il n'est pas question de les envoyer à l'échafaud, les coureurs. Mais ce parcours, avec le Crostis, il était publié au mois d'octobre, comme tous les ans. Et on attend, et s'il n'y avait pas eu le décès de Wouter Weiland, est-ce qu'on aurait eu une telle polémique ? Sûrement pas.
Ah oui, sûrement pas, oui.
Est-ce que l'année dernière... Hier, ils ont monté la Fedaya, ce col de la Fedaya, juste avant la montée finale. Et s'ils l'avaient redescendu de l'autre côté, parce que je le connais bien, la descente qu'ils ont montée, en fait, elle est extrêmement dangereuse également. Et d'habitude, souvent, ils l'ont emprunté. Je me souviens, la première fois, c'est pas un col que les coureurs connaissent depuis longtemps. Je crois que c'était à l'époque où Pantani avait gagné le Giro et où il avait battu Indurain. Et tout le monde avait, et beaucoup de coureurs avaient dit, waouh, mais cette descente, enfin, on pouvait se tuer dans cette descente. Donc, c'est resté malgré tout. Et justement, Pantani, qui était plutôt un grimpeur qu'un descendeur, avait attaqué dans la descente. Ouais, donc voilà, c'est tout ce que je voulais.
Dans toutes les descentes, on peut se tuer.
Bien sûr. Mais regardez.
Mais
même sur une ligne droite.
Regardez quand même quelques images de ce col-là. Puis vous aurez une idée quand même du risque qu'on faisait prendre aux coureurs.
Bon, allez, messieurs, on va retrouver un sport combien physique, mais au risque franchement plus limité que le cyclisme. C'est le tennis, évidemment. On va retrouver Clément Grèze en direct de Roland-Garros. Clément.
Oui, et ça se passe très très mal pour les Français, avec notamment le Caravan Rezaï. On pensait qu'elle avait un premier tour à sa portée face à la Roumaine Belou. Au-delà de la 100e place mondiale, eh bien, pour Caravan Rezaï, c'est la porte de la sortie qui lui est quasiment indiquée maintenant. Elle est menée 6-3, 5-1 par la Roumaine, qui va être au service d'ici quelques instants pour tenter de conclure cette rencontre. Une qualification déjà dans le tableau féminin, toujours, c'est pour Francesca Schiavone, la tenante du titre italienne, qui s'est baladée face à Mélanie Houdin, l'américaine pas franchement spéciale. Spécialiste de la terre battue, 6-2, 6-0, l'affaire est dans le sac. Le cours numéro 1, Ivo Karlovic, Juan Martín del Potro, l'Argentin avait fait la course en tête dans le tie-break, il s'est finalement incliné face au Croate, 7-6 pour Karlovic. On entame le deuxième set. Et puis, parmi les autres rencontres intéressantes, Antukova qui mène 6-3, 4-2 face à Zen Yuzny qui mène 7-5, il a remporté le premier set face au japonais Go Soeda, Bellucci a remporté le premier set face à Golubev, et puis Troiti contre continue sa marche en avant face à Julian Reister. Le score 6-4, 4-3. Qualification enfin à l'instant dans le tableau féminin de Yagostera Vives aux dépens de Pivovarova. Yagostera Vives qui sera la prochaine adversaire de Alizé Cornet dans ce tableau féminin.
Merci beaucoup Clément, on revient vers vous d'ici la fin de cette émission.
RTL équipe, carrément vélo.
Allez, je vous propose définitivement de tourner la page du Tour d'Italie pour parler tout de même de ces accusations de dopage. Je veux parler celle de Tyler Hamilton qui a accordé donc une interview à une chaîne américaine. Et dans cette interview, il revient évidemment sur les pratiques de dopage au sein de la formation US Postal. Et il le dit clairement, oui, Lance Armstrong s'est dopé, je l'ai vu, s'injecter de l'EPO. Il y avait également des transfusions sanguines, de l'hormone de croissance, de la testostérone. Enfin bref, voilà, toutes les pratiques évidemment dopantes. L'étau se resserre autour du septuple vainqueur du Tour de France. Si on se projette, si on essaie d'imaginer un peu l'avenir, parce que c'est ça qui nous intéresse, est-ce que Armstrong est dopé ? Bon, oui ou non, je crois qu'on connaît tous la réponse. Mais l'avenir du coureur américain, comment peut-on imaginer les prochains mois, les prochaines années, Patrick Chassé ? En prison, par exemple ?
Si on se réfère, qu'est-ce qu'il risque ? Il risque déjà d'escroquerie à l'égard d'une entreprise publique américaine. Et de complot, je crois.
Non,
on ne parle pas de la même chose. Là, je parle de l'enquête qui est en cours. Le grand jury enquête pour savoir si les fonds publics de US Postal, qui est un peu l'équivalent de la Poste, ont été détournés pour un trafic de produits dopants. Donc, dans ce cas-là, effectivement, escroquer l'administration publique, ça coûte très cher aux États-Unis. Et puis, comme Pierre l'a dit, il y a également une autre affaire. C'est une affaire de... Il faut rappeler un petit peu la chronologie. Il y a quelques années, Armstrong avait souscrit à une police d'assurance pour gagner une prime substantielle en cas de victoire dans le Tour de France. Ça se faisait assez couramment dans le sport. Et puis, lorsqu'il avait gagné le Tour de France, comme il y avait eu ces rumeurs, qui étaient un peu plus que des rumeurs de dopage le concernant, eh bien, la compagnie d'assurance avait demandé une enquête. Il y avait eu un tribunal, il y avait eu un grand jury à l'époque. Déjà, on avait auditionné des témoins sous serment et un certain nombre de personnes avaient témoigné en faveur, bien sûr, en disant que tout ça n'était que foutaise, que Armstrong ne s'était jamais dopé, qu'il n'y avait jamais eu de dopage dans cette équipe. Ça veut dire que tous ces gens qui ont témoigné à l'époque, Armstrong en fait partie, Brunel en fait partie, un certain nombre de gens plus ou moins anonymes en font partie. Tous ces gens-là, aujourd'hui, si la démonstration est faite qu'ils ont menti, effectivement, seront condamnés pour parjure et, à l'instar de Marion Jones, par exemple, eh bien, risquent la prison.
Oui, ça peut aller très très loin. Pierre Salvéac, je sais que vous avez consacré votre PS hier dans RTL en direct de l'équipe à cette affaire.
Oui, moi, ce que je voudrais faire remarquer, c'est quand même que les témoignages, en particulier ceux d'Hamilton et de Hincapie, si j'ai bien compris, c'est devant des grands jurys. Depuis l'affaire DSK, on sait ce que c'est un grand jury quand même aux États-Unis maintenant. C'était des positions qui sont graves. Alors, s'il y en a qui ont menti devant ce grand jury, alors il faisait allusion tout à l'heure à Armstrong et à son directeur sportif Brunel. Alors, ou c'est eux qui ont menti, ou c'est Hincapie et Hamilton qui ont menti.
Et Landis, et Betsy Andreux, et Frankie Andreux, et la liste est longue.
Voilà. Faut bien prendre conscience, et au moment de l'affaire DSK, c'est important, faut bien prendre conscience que ce qui se passe à propos d'Armstrong, c'est grave, parce que c'est devant un tribunal américain, et on sait comment fonctionnent maintenant les tribunaux américains. Donc, en conséquence, oui, Armstrong risque
la prison.
La jurisprudence Marion Jones uniquement pour parjure, c'est 6 mois. Mais si on ajoute à ça, effectivement, le cas qui a été évoqué aussi dans le statut d'Armstrong, ça fait beaucoup. Et moi, je peux vous dire que c'est grave, la situation.
Enfin, on ne va pas faire le procès de la justice américaine. Mais
c'est
dans
pas
ce
le procès, c'est pour rappeler aux gens que ce n'est pas de la rigolade. Quoi. Voilà.
Oui, ça c'est sûr. Nicolas Pertuis, voilà. Armstrong en prison.
No comment, pour moi, tout ça, c'est...
Mais c'est grave.
C'est grave, mais la semaine dernière, je suis allé voir Jérôme Coppel en montagne, dans un stage dans les Alpes, et on a parlé entraînement, beaucoup entraînement, et le nom d'Alain Armstrong est souvent revenu, en tout cas dans les méthodes d'entraînement. Je vais pas faire l'avocat du diable, hein, c'est pas du tout ce que je veux faire aujourd'hui.
Ça veut dire quoi que
ça va durer? Non, mais je veux dire, ça va
Armstrong sert de référence
sur certains points. Je pense que il faut pas retenir que le dopage. Il faut faut aussi retenir des choses intéressantes d'un point de vue physiologique. Voilà, c'est juste mon point. C'est juste un point sur lequel je voulais qu'on parle pour ne pas non plus dire que ce coureur qui a gagné cette fois le Tour de France est un tricheur, un menteur. Et voilà. Maintenant, je pense que l'étau se resserre autour de lui. S'il a triché, s'il a menti, il faut qu'il soit puni.
Oui, mais c'est pas ça qui est en cause, Nico. C'est d'habitude, quand un coureur balance, c'est le milieu qui le condamne. Là, il balance devant un tribunal. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose.
Mais vous n'êtes pas tout à fait sur le même, si je peux me permettre, Nicolas et Pierre, vous n'êtes pas tout à fait sur le même mode. C'est-à-dire que moi, Armstrong est un tel personnage. Il a amené quelque chose, lui, son entourage, dans le vélo, qui est la professionnalisation.
D'accord, tu.
À la perfection, absolue. Moi, je me souviens de Fignon qui disait, c'est quand même, ce mec, il crève jamais. Son équipe, on ne crève jamais. Je me souviens, s'il y avait un Tour de France qu'il avait remporté, je crois, il y avait l'équipe Bonjour à l'époque, ils avaient été décimés par des crevaisons, des chutes. Et lui, Laurent, il s'énervait, il disait, mais c'est quand même énervant. C'est toujours les mêmes qui sont victimes d'incidents mécaniques, qui tombent, qui chutent, qui crèvent. Et Armstrong, il crève jamais. Mais ça voulait dire quoi derrière ça? Ça voulait dire qu'Armstrong, bah, même le choix des boyaux, et on était très méticuleux dans tous les compartiments du jeu. Maintenant, on lui reproche d'avoir été un peu trop, avoir voulu. En fait, il voulait enlever la part d'incertitude dans tous les domaines. C'est exactement ce que je reprochais tout à l'heure aux directeurs sportifs dans leur façon de courir.
Oui, mais attendez,
enfin,
quand on est
la façon de faire
Patrick,
courir leurs coureurs.
Patrick, quand on prépare une émission de radio, de télé, on essaie de faire en sorte que l'incertitude du direct, justement, qu'on n'y soit pas franchement confronté. On travaille en amont. Pour ça, c'est aussi être professionnel.
Oui.
On peut également le voir sous.
Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Mmh. S'il avait effectivement fait un choix de matériel formidable qui lui évitait toutes mes aventures, c'est absolument pas répréhensible.
Oui, oui.
S'il choisit de prendre le meilleur médecin pour lui filer le meilleur cacheton quand il est malade,
c'est pas
répréhensible. Si en revanche le médecin devient celui qui optimise ses performances et qui lui donne tous les produits dont il a besoin pour être le meilleur, ou si on lui donne un vélo électrique, j'en sais rien. Enfin, peu importe, tous les maux qu'on peut reprocher au vélo actuellement, eh bien là, effectivement, c'est absolument scandaleux. Et c'est là que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Nicolas. C'est que aujourd'hui, la vérité doit éclater. Pour moi, il est pas. Je sais que ça fait un tort considérable au cyclisme, mais je ne peux pas accepter que des Ulrich, des Basso, des Virenque, la liste serait interminable, aient été sanctionnés, et que Armstrong, bien sûr, tel une colombe toute blanche, lui, grâce à son talent exceptionnel, eh bien, survole tout ça avec un mépris considérable.
Bon, Patrick, bon. Mais moi, ce que je retiens
pour
de
terminer,
ça, surtout,
Pierre.
Oui, non, mais ce que je retiens surtout de ça, c'est qu'encore une fois, il y aura une jurisprudence Armstrong s'il est condamné, et ça prouvera aux coureurs, à leur entourage, qu'ils ne peuvent pas être toujours en train de nier ce qui souvent apparaît comme des évidences, ou en tout cas qui est souvent confirmé par des analyses.
Ce qui est dommage, c'est que Lance Armstrong a fait quelque chose de très bien dans sa vie, c'est qu'il a donné espoir à des centaines de milliers de gens malades et qu'il a réussi à obtenir des fonds, même si ça sera aussi probablement une troisième affaire dont on ne parle absolument pas, c'est l'utilisation de ces fonds. Et je suis étonné de voir que la presse américaine en parle largement depuis plus de six mois. Je suis étonné de voir que Pierre Ballester et David Walsh ont écrit dans un livre des choses très intéressantes.
Et pas repris en France.
Et que ça n'a été absolument pas repris, savoir quelle est la somme par rapport aux sommes recueillies par Livestrong pour la lutte contre le cancer, l'étroitesse, la modique somme qui va simplement à la recherche. C'est justement pour ça qu'Armstrong ne pouvait pas disputer. Il avait été question qu'Armstrong aille au Canada disputer le Grand Prix de Québec et le Grand Prix de Montréal. Et pendant un long moment, des tergiversations ont empêché l'équipe RadioShack d'aller au Canada parce que justement un organisme public au Canada disait non, on ne veut pas d'une équipe liée à une association de bienfaisance qui donne si peu de ses fonds à la cause qu'elle est censée défendre. Et c'est comme ça qu'on avait révélé un petit peu le poteau rose.
Je remercie Nicolas Pertuis.
Merci à vous.
Je remercie Patrick Chassé.
Je peux juste saluer Jean-Paul Brouchon.
Oui,
excellent Brouchon. Joueur de tennis lui aussi quand il était jeune et pas seulement fanat de vélo.
Sachez qu'on pense
c'est
à lui.
C'est un fauve, il faut qu'il se batte.
Oui, on pense à lui tous les jours évidemment. Et s'il nous écoute, bien sûr, on lui souhaite bon courage. On ne l'oublie pas, ça c'est une certitude et on va le retrouver, on l'espère en tout cas. Pierre Salviac, bonjour. Bonjour, merci Pierre.
Arrête de fumer la moquette, c'est joli Manu.
Non, attendez.
On dit ça en province. Bonjour Pierre.
Ah, oui, c'est vrai.
Je vous rappelle tout de même l'information. Alors on va rester prudent, mais bon, ça se précise.
Une sorte de garage, je vais tomber sur la gueule, tu peux le dire.
Ça se précise tout de même l'information concernant Javier Tondo, malheureusement, qui est décédé, semble-t-il, donc dans la matinée. C'est une information. hein, qu'annonce en tout cas le site Marca. Ce n'est pas une information que je prends à mon compte, même si ça se précise évidemment davantage d'informations très certainement dans les flèches d'infos tout au long de cet après-midi sur le www.rtl-l'équipe.fr. Je rappelle, il avait 32 ans, il avait remporté le Tour de Castille-León, il avait signé au sein de la formation Movistar, donc en début d'année. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine bien sûr pour un nouveau Carrément en vélo, tout de suite le tennis, et moi je vous donne rendez-vous également dans une heure pour le Café des Sports avec mon invité Thierry Roland.